Au Congrès américain mardi, ces trois représentants de réseaux sociaux ont dû répondre aux critiques des sénateurs qui les accusent de nuire à la santé mentale et physique des enfants.
Snapchat est différent. Snapchat a été construit comme un antidote aux réseaux sociaux.
Votre défense est « nous ne sommes pas Facebook ». Mais être différent de Facebook n'est pas une défense. Cela revient à placer la barre au niveau du caniveau.
Cette charge anti-réseaux sociaux intervient en plein Facebook Leaks. Une ancienne employée de l'entreprise de Mark Zuckerberg vient de révéler des documents confidentiels et un secret bien gardé. Les ingénieurs de Facebook ne comprendraient pas toujours les agissements de leurs algorithmes, comme si leur créature leur avait échappé.
C'est un grand danger pour la démocratie et les sociétés du monde entier. Facebook nous ferme la porte. Nous avons une petite fenêtre de temps pour que les gens reprennent le contrôle de l'intelligence artificielle.
Face à ces algorithmes accusés de créer une dépendance aux réseaux sociaux et d'attiser la haine en ligne, les Européens planchent sur deux textes de régulation pour protéger les utilisateurs contre tout abus.
C'est vraiment le Far West. Et bien donc ça, c'est terminé. On va créer une structure, on aura une structure ad hoc qui va auditer cette plateforme, qui va pouvoir aller voir ce qu'il y a dans les algorithmes et précisément interdire ces comportements.
Alors que Donald Trump, grand amateur de fake news, s'apprête à son tour à lancer son réseau social, les Européens peuvent-ils vraiment faire la loi? Font-ils le poids face aux géants du numérique? Les réseaux sociaux sont-ils hors de contrôle?
3 580 millions d'utilisateurs pour toutes les applications appartenant à la famille Facebook. Alors il y a Instagram, Messenger, WhatsApp qu'on a beaucoup utilisé dans les familles pendant le confinement, il faut bien le reconnaître. Ça veut dire la moitié de l'humanité. Alors qu'est-ce que ça veut dire être actif sur un réseau? Eh bien c'est être fréquent au moins une fois par mois. Alors c'est énorme, hein, Facebook, on s'en rend compte avec ce chiffre. Nicolas Arpajian, c'est tellement énorme qu'on se dit, eh bien c'est pas possible de le contrôler, trop gros pour être contrôlé.
En fait, ça s'est construit par sédimentation parce que c'est une création ex nihilo, c'est une entreprise qui n'existait pas, ouais. Dans un métier qui n'existait pas, simplement par la qualité de ses usages, par les besoins que ça a suscité. Effectivement, par empilement, il y a eu cette construction qui s'est imposée. En fait, on se réveille, vous évoquez des volumes, on pourrait évoquer des zones géographiques et des domaines d'activité, le commerce, les loisirs, les interactions humaines, bref, on est tous azimuts. Et la seule chose, on n'aurait pas laissé des entreprises intervenir dans une aussi grande variété, surtout avec un poids aussi structurant. Et donc se pose la question en fait de désormais appliquer des règles que l'on a prévues pour la concurrence, pour la distribution de produits, pour éventuellement le pétrole il y a quelques décennies. Et en fait, il faut remettre ces entreprises dans l'économie normale.
Et il faut pour ça, Lucien Ronfo, bien pouvoir domestiquer, j'allais dire, ces algorithmes. C'est le cœur du problème, c'est bien ça, ces algorithmes. Qui ont dépassé un peu leurs propres créateurs.
Alors effectivement, quand on regarde les Facebook Files, en fait, il y a deux grands sujets. Il y a le sujet de la modération, qui est un sujet extrêmement important et qui implique en partie les algos. Et il y a donc ces fameux algorithmes qui sont en fait des programmes chargés notamment de recommander des contenus sur le fil d'actualité de Facebook. Et en fait, ce qu'on se rend compte dans les Facebook Files, c'est que donc d'un côté, Facebook est un produit de décisions économiques, politiques, etc. Et de l'autre, en fait, ils ont tellement grossi, si vous voulez, qu'en fait, ils ont un peu perdu le contrôle de leurs algos, quoi. Et donc, ils ont un petit peu de mal, eux-mêmes, les ingénieurs de Facebook, à comprendre comment ces algorithmes fonctionnent.
Pas du tout, d'accord, Joël Toledano?
Non.
Facebook n'a pas perdu le contrôle de ses algorithmes?
Non, vous avez vu les résultats financiers.
Colossaux.
Colossaux, ils ont bien augmenté.
Oui.
Leurs algorithmes, ils sont là pour avoir des résultats financiers.
Optimiser les résultats.
Après... Le moyen de les avoir, c'est que les gens communiquent. Mais il se trouve que c'est aussi que les gens communiquent d'une certaine façon, de façon plus agressive qu'empathique, etc.
Oui, Donc,
par rapport à leur objectif principal, qui est de gagner de l'argent, contrat rempli.
Donc ils n'ont pas à changer, alors
si vous voulez, je crois que l'expression qu'on emploie, c'est les dégâts collatéraux, c'est ça?
Oui.
Il y a des dégâts collatéraux. Et effectivement, par rapport à leur objectif numéro 2, mais vraiment numéro 2, qui est d'éviter qu'il y ait un certain nombre de choses qui se passent, Ils n'arrivent pas toujours à les éviter, mais ils atteignent leur premier
objectif. Mais quand on se souvient de ce qui s'était passé, l'assaut sur le Capitole à la suite de toute cette déferlante de messages haineux, incontrôlables, quand on entend ce que disait justement le sénateur démocrate en disant toutes ces plateformes nuisent à la santé cognitive, mentale, ce ne sont pas que des dégâts collatéraux, c'est considérable. C'est une érosion de la démocratie et c'est un mal qui risque de faire du mal aux générations futures.
J'étais un petit peu ironique, pardon.
J'avais bien compris, mais je voulais quand même...
Mais bien sûr, quand il se trouve que pour Instagram, le fait qu'il y ait un tiers des jeunes filles qui se sentent mal...
Des jeunes filles de 13 ans.
Et que ce soit pas tout à fait... que ce soit lié, en partie en tout cas, à Instagram, ils l'ont diagnostiqué, ils n'ont rien fait. Mm-hmm. Donc qu'on ne m'explique pas qu'ils ont perdu le contrôle de leur algorithme.
Lucie Riffaut.
Alors, en fait, je pense, et c'est ce qu'on voit en fait quand on lit les enquêtes, qu'on est face à un problème de transparence. C'est-à-dire que, effectivement, on constate toutes et tous les conséquences de Facebook, mais pas que de Facebook, hein, parce que là, on parle de Facebook, mais en fait, c'est des enjeux qui concernent tous les géants du numérique. Mm-hmm. On constate leurs effets sur notre quotidien. Donc, effectivement, c'est des entreprises qui sont faites pour retenir notre attention, pour qu'on regarde des pubs, et donc pour leur faire de l'argent, pour le dire très vite. Mm-hmm. Et ça a des effets de bord, mais qui sont même plus les effets de bord maintenant. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Des effets
de bord. C'est-à-dire que c'était des trucs qu'ils avaient, on espère, qu'ils n'avaient pas prévu. Facebook, en fait, par exemple, a un gros budget sur la recherche. Il emploie des chercheurs et des chercheuses pour essayer de mesurer les effets de ces réseaux sur les jeunes filles, par exemple, pour Instagram, etc. Le problème, c'est que nous, citoyens, on n'a pas accès à ces recherches, on n'a pas accès à ces données. Donc c'est pour ça que maintenant, l'une des armes, peut-être, contre ces plateformes, ça serait de
réclamer de la transparence.
C'est la publication de la recette. Quand vous achetez un aliment, désormais, on vous donne les allergènes, on vous donne le mode opératoire, le lieu de fabrication, le lieu d'assemblage, même parfois le lieu de création. Et en fait, on documente ce qu'il y a dans le produit que vous achetez. Là, la difficulté, c'est que c'est un algorithme, donc c'est quelque chose de mathématique, qui n'est pas facilement présentable. Simplement, on s'est aperçu que quand cet algorithme était modifié, alors il faut peut-être pas voir Facebook comme un endroit où il y a un guichet unique de modification, mais des équipes différentes et qui expliqueraient aussi certains aveuglements ou dysfonctionnements liés au fait que tout le monde n'a pas forcément une vision globale du dispositif. Première chose. Et la deuxième, c'est surtout qu'on va commencer à changer les règles du jeu. Quand Facebook dit maintenant je vais valoriser dans les informations qui vont être mises à votre disposition celles de votre entourage, des gens que vous connaissez, et pas uniquement celui de personnalité. Vous voyez que c'est un réglage éditorial, simplement à ce moment-là, vous facilitez et vous encouragez les bulles informationnelles, c'est-à-dire qui se ressemblent. Ça semble, je m'éloigne un peu plus des autorités, ou des sachants légitimes, académiques, qui ayant une rigueur, en tout cas scientifique, ou en tout cas prêt à la contestation, et vous vous enfermez un peu plus dans une logique informationnelle. Ça vous fait être un acteur de plus en plus actif, c'est apprécié par la plateforme qui, effectivement, a un modèle économique qui est lié à l'audience.
Qu'est-ce qu'on peut exiger de Joël Toledano? Est-ce que, par exemple, on voit que dans beaucoup de pays, il n'y a même pas de traduction du mode d'emploi de la réglementation de Facebook dans des pays comme la Birmanie ou même le Pakistan, où il y a beaucoup de comptes, ils ne savent pas comment faire, par exemple, pour interdire ou pour demander l'interruption de la circulation d'une information. Qu'est-ce qu'on peut exiger concrètement de Facebook? Au moins ça, la traduction du mode d'emploi.
Est-ce qu'on peut exiger quelque chose?
Attendez, je ne sais pas bien ce qu'on peut exiger sur la Birmanie, qui va le demander, mais parlons déjà de la France, parlons de l'Europe.
Parlons de l'Europe.
Quand il est avéré que dès 2018, Facebook avait identifié qu'il y avait un problème sur l'algorithme qui polarisait, ce qui nous a été expliqué, et il a été décidé, c'est documenté, de ne rien faire. Bon, donc je ne pense pas que ça prouve bien qu'on ne peut pas juste attendre qu'ils nous disent ce qui est pour faire quelque chose. Ce n'est pas eux, ce n'est pas de la transparence qu'il faut demander.
Ou de l'autorégulation, alors. On ne peut pas demander d'autorégulation.
Bah non, ça a été essayé et voilà, ça ne marche pas. Alors maintenant, si vous voulez, la première chose que nous devons faire, nous, Européens, c'est de nous donner les moyens de tester ces algorithmes, de voir ce qu'ils provoquent.
Donc d'avoir la recette des algorithmes, c'est ça que vous exigez de Facebook, ils disent comment vous faites au quotidien pour faire le tri.
Alors c'est un ensemble de méthodes. Ça peut être effectivement d'aller faire des tests pour voir ce qui se passe, ça peut être d'avoir accès à un certain nombre d'informations, ça peut être... C'est multiple, il n'y a pas de recette unique et on est devant des problèmes nouveaux. Donc il ne s'agit pas de dire, voilà exactement ce qu'il faut faire. Mais il faut ne plus attendre que ce soit Facebook.
Ne plus attendre. On demande beaucoup de modération, enfin de modérateurs. On dit à Facebook embaucher des modérateurs. Est-ce que ça peut être une des exigences qu'on peut avoir ou pas?
Alors effectivement, donc Facebook, juste Facebook, c'est 2,9 milliards d'utilisateurs. Les modérateurs.
2,9 milliards d'utilisateurs au moins une fois par mois, c'est ça?
Au moins une fois par mois. Les modérateurs de Facebook déclarés, c'est 15 000.
15 000 dans le monde entier.
Contrôler dans le monde entier. Donc ils ont des algorithmes pour les aider, etc. Mais le problème, c'est qu'on est face à des espaces numériques, encore une fois, on ne parle pas que de Facebook, qui sont immenses. Et en fait, vous aurez beau embaucher tous les modérateurs et modératrices du monde, on ne pourra jamais, en fait, gérer ce flux constant, parce qu'on ne parle pas que de la France et des États-Unis, on parle du monde entier tout le temps. Donc, comment, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Frances Haugen, par exemple, elle a une théorie que moi je trouve intéressante.
C'est celle
Frances
Haugen,
la lanceuse d'alerte.
Elle dit revenons à un fil d'actualité chronologique. C'est-à-dire qu'on s'est habitué depuis des années à avoir les réseaux sociaux qui nous disent un peu quoi regarder, donc sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, etc. En fait, avant, le web, c'était pas ça. Avant, le web, il y avait des algorithmes, mais qui étaient un petit peu moins costauds, on va dire. Et sur Facebook, je voyais le post le plus récent qui a été posté. Donc là, déjà, on résout, a priori, en théorie, le problème des bulles. Une autre théorie, moi, que j'aime bien, c'est celle de la friction-modération.
Ah.
Alors, la friction-modération...
C'est rendre plus compliqué l'utilisation, moins fluide.
Voilà, parce que quand on parle, en fait, de modération des contenus, on se concentre beaucoup sur les contenus. Le truc, c'est qu'en fait, la haine n'a pas été créée par Facebook. Il y aura toujours de la haine, il y aura toujours de l'homophobie, il y aura toujours du sexisme. Le problème, c'est que les réseaux sociaux rendent virale cette haine, rendent virale ces soucis. Et donc, en s'attaquant à la viralité, on règle en partie...
Comment on s'attaque à la viralité? C'est quoi la friction?
Alors, par exemple, un truc qui a été testé par Twitter ces derniers mois, c'est quand je veux partager un article sur Twitter, il y a une petite pop-up qui s'affiche en disant « Avez-vous bien lu cet article ?» Un petit message.
On doit y réfléchir à deux fois.
Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de mettre un tout petit grain de sable dans ma fréquentation des réseaux sociaux, ce qui va complètement contre ce modèle économique qui est celui de l'attention totale et ininterrompue. Mais ça peut être une théorie.
Mais ça, c'est partir du principe que l'utilisateur, l'usager, va adopter, embrasser cette démarche, prendre du recul et tout le monde n'est pas responsable.
Bien sûr. La seule chose, c'est qu'il faut partir de l'idée que cet usage, il a été fait de manière intuitive. Personne n'a lu le mode. Il n'y a pas eu de mode d'emploi. Les conditions générales d'utilisation ont dès lors été signées parce que ça vous permet d'accéder à votre compte, n'ont pas forcément été lues ni comprises.
Bien sûr.
Et la seule chose, et surtout éventuellement les éventuelles mises à jour qui peuvent survenir, qui sont également importantes. La seule chose, c'est qu'il va falloir apprendre effectivement quant aux usages. Et la seule chose, c'est que il faut qu'un État soit d'une part éclairé sur les usages réels, c'est-à-dire qu'est-ce que sont ces plateformes, et surtout qu'elles soient exigeantes dans l'application de règles comme elle l'est dans d'autres domaines où elles ne laissent pas l'initiative aux seuls acteurs, parce que compter sur la stricte automodération n'est pas certainement facteur de vertu.
Alors, soit effectivement on compte sur les acteurs et on est très candide, soit ce sont les États ou des juridictions qui s'en mêlent. Je vous propose de regarder une archive. On est en 2000, c'est un procès retentissant aux États-Unis. Un juge menace de découper Microsoft, une entreprise qui avait été fondée par Paul Allen et Bill Gates en 1975, donc 25 ans plus tôt, de la découper en plusieurs entités.
Désormais, les choses sont très claires. Le gouvernement des États-Unis veut casser la compagnie de Bill Gates en deux sociétés bien séparées pour éviter toute situation de monopole. Mais Bill Gates n'a pas dit son dernier mot.
It's not the final word.
La partie n'est pas jouée. Nous pensons que les cours d'appel ne suivront pas ces réquisitions beaucoup trop radicales qui léseraient au final le consommateur et empêcheraient le développement de nouvelles technologies. Le projet des autorités serait donc de diviser l'entreprise de Seattle en deux entités distinctes, l'une pour le fameux système d'exploitation Windows, l'autre pour le développement des logiciels comme le traitement de texte par exemple.
Benjamin.
Joël Toledano, est-ce qu'il faut un droit international, par exemple, pour forcer au démantèlement? On parle du démantèlement de Facebook. Est-ce que ça, c'est envisageable? Totalement utopique.
Écoutez, moi, je crois que quand on parle du démantèlement, ça va prendre tellement de temps que d'ici là, on n'aura rien fait et les catastrophes qu'on voit tous les jours continueront. Donc, que ceux qui ont envie de s'occuper du démantèlement et de voir comment ça peut être mis en œuvre juridiquement s'en occupent, moi, je propose qu'on fasse tout de suite, qu'on mette en place des institutions qui soient compétents en matière d'algorithmes, qui soient indépendantes, mais à partir de lois édictées par les États, à partir de principes édictés par les États, et qui, effectivement, après avoir évalué ce qui se passe, obligent à faire évoluer les comportements. Ça peut être, comme c'était dit tout à l'heure, par un fil temporel, mais vous avez eu, il y a quelques mois, une étude de Stanford qui proposait, elle, que, en réalité,